Vous écoutez CKI à 88.3, Radio Urbaine.
Ce dimanche 1er octobre, Mondes musicaux en émission spéciale. Rendez-vous dès 13h avec Maxime Robin à propos de sa mise en scène des Hosanna de Michel Tremblay. Et à 14h, Lorraine Côté sur la remarquable théâtralisation du film culte pour la suite du monde. Édition spéciale de Mondes musicaux ce dimanche 1er octobre de 13 à 15h. Bienvenue à toutes et tous.
Coupures budgétaires, mises à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour nous-mêmes qui travaillons d'arrache-pied à servir le public? Des solutions existent.
Nous sommes le Syndicat canadien de la fonction publique et nous vous invitons à écouter l'émission D'un autre angle tous les vendredis à 11h sur les ondes de CKIA FM.
Musique sans frontières, c'est du blues, du rock, du country américain, ainsi que des musiques variées.
Musique sans frontières avec Michel Giroux, c'est tous les samedis à 19h sur les ondes de CKIA FM 88.3, la radio urbaine à Québec.
Amateurs de rock, le samedi soir, c'est à CKIA que ça se passe avec l'émission Évasion Rock. Je vous y invite le samedi 21h.
Depuis plus de 27 ans, Profil est la référence en rock progressif. Découvertes musicales, entrevues, spectacles et plus. Soyez à l'écoute tous les dimanches à 20h au 88.3 FM ou sur profilprog.com.
Vous aimez la littérature et le monde du livre? Ne manquez pas Épilogue pour découvrir chaque semaine des livres d'ici et d'ailleurs. Entrevues avec des écrivains, critiques de romans, de poésie, d'essais, de BD et actualités littéraires sont au menu de cette émission qui propose de tout aux oreilles du lecteur et de la lectrice en vous. Épilogue, le dimanche midi, rediffusion mardi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Vous vous intéressez aux différents genres de rock? Eh bien, je vous donne rendez-vous le mercredi de 20h à 22h aux quatre coins du rock. René Boudreau, je vous y attends.
Salut tout le monde, ici Bruno Laberge, l'animateur du Polymath. Tout d'abord, je voudrais juste dire qu'un polymath, c'est une personne dotée d'une culture poussée, sérieuse et large. Joignez-vous à nous, Pascal Despins, à la recherche et à la réalisation, ainsi que moi-même, Bruno Laberge, à la narration et à la production, les dimanches à 11h, sur les ondes de CKIA 88.3 FM.
Toute simplicité. Thank you.
Même dans notre pays relativement libre, la plupart des gens sont tellement absorbés par pure ignorance et pure erreur dans les soucis factices et les labeurs inutilement rudes de la vie qu'ils sont incapables de cueillir les fruits les plus jolis que cette même vie peut offrir. L'excès de travail a rendu leurs doigts trop gourds et trop tremblants pour la cueillette, pour cette cueillette. En réalité, le travailleur n'a dans son quotidien aucun loisir pour aucune expression d'intégrité véritable. Il ne peut se permettre d'entretenir de vraies relations humaines avec ses prochains, car son labeur s'en trouverait déprécié sur le marché. Il n'a pas le temps d'être autre chose qu'une machine. Comment peut-il se souvenir correctement de son ignorance, condition nécessaire pour grandir, alors qu'il passe son temps à user de son savoir? Nous devrions parfois le nourrir et le vêtir gratuitement et lui offrir quelques cordiales avant de le juger. Comme l'éclat d'un fruit mûr, les plus belles qualités de notre nature ne se préservent que si l'on manipule avec la plus grande délicatesse. Mais nous ne nous traitons pas nous-mêmes et nous ne traitons pas les uns les autres avec ce genre de tendresse.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs. 22 sous c'est pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh oh oh, simplifier, 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 oh simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Simplifier, oh simplifier, oui simplifier. J'ai regardé dans ce pays ce que j'ai trouvé, m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheurs, trop de couteaux, trop d'objets, de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos.
Alors, bienvenue à notre émission En toute simplicité, l'émission sur la simplicité volontaire, la philosophie et l'écologie. Comme à l'habitude, je vous ai lu en début d'émission un extrait de Walden, d'Henri David Thoreau, qui est un peu notre mentor en toute simplicité. On lit toujours des extraits de Thoreau, c'est comme le philosophe emblématique de la simplicité. Ensuite de ça, j'avais Richard Séguin de son album Le Retour à Walden, simplifié. Dans les lectures que j'ai faites cette semaine, toujours dans le devoir, on a un bon cahier environnement le jeudi, alors
Je vous lis quelques extraits du cahier de Judy. On a un article intéressant sur les colibris, l'incroyable migration de l'oiseau-mouche. Le colibri à gorge rubis migre sur des milliers de kilomètres malgré sa minuscule taille. Ce sont les plus petits oiseaux qu'on peut observer au Québec. Ils pèsent à peine 3 grammes et pourtant, ces jours-ci, les colibris à gorge rubis partent pour une impressionnante migration qui peut aisément dépasser les 3500 kilomètres. Qui ne connaît pas l'oiseau-mouche? Ceux qui en ont vu sont souvent fascinés de les voir voler sur place, reculer, etc. C'est aussi un oiseau coloré. Il a donc tout pour être charismatique, résume Jean-Sébastien Guénette, directeur général de Québec Oiseau. Alors ça, c'était dans le devoir de jeudi dernier, 28 septembre, page B6, dans le cahier environnement. Puis on nous parle des colibris, qui est un oiseau vraiment magnifique, fabuleux. Puis on nous encourage, pour ceux qui le peuvent, à installer des abreuvoirs. Alors, à la fin de l'article, on dit « L'installation d'abreuvoirs d'eau sucrée peut par ailleurs leur être fort utile, selon Pascal Côté. L'espèce existait avant qu'on installe des abreuvoirs, mais comme pour les mangeoires, il s'agit d'un accès facile et rapide à une source de nourriture. Cette ressource alimentaire peut notamment leur donner un coup de pouce avant leur long voyage automnal. Avant d'entreprendre leur migration, ils doivent se faire des réserves. Ils peuvent augmenter leur masse corporelle de 40 % en quelques jours. C'est leur carburant, explique le biologiste. On a aussi, dans le même cahier, c'est tous des articles d'Alexandre Shields dans Le Devoir de jeudi, sur les GES au Canada, un autre bilan. Le Canada est encore loin de l'atteinte de ses objectifs climatiques pour la présente décennie. Et plus que jamais le bilan des émissions de gaz à effet de serre est plombé par la croissance de la pollution générée par le secteur pétrolier et gazier, le principal émetteur du pays. Selon une estimation des GES de l'année 2022 produite par l'Institut climatique du Canada, les émissions du pays ont poursuivi leur augmentation l'an dernier dans la foulée du rebond qui a suivi la pandémie de COVID-19. Alors, il y a encore du travail à faire au Canada. On a vu hier quand même une annonce intéressante avec l'usine de batterie. On va voir là, si la transition électrique va suffire pour réduire nos émissions. J'ai un autre article que je vais vous lire du Devoir qui est, disons qu'il faut voir les côtés. La lumière, si elle est toujours là, la lumière au bout du tunnel, on voit que malgré tout, les réductions s'effectuent progressivement. En tout cas, je vais vous lire ça, là, c'est un article dans un autre numéro du Devoir là, que je vous lis tantôt. Ensuite, on a un article toujours dans le même numéro de jeudi du Devoir, la rivière MacPay est reconnue comme aire du patrimoine autochtone, mais Québec et Ottawa refusent toutefois de s'avancer sur la création d'une éventuelle aire protégée. Alors, c'est une de nos rares rivières magnifiques qui n'a pas été harnachée par les barrages. Je ne sais pas si on va réussir à résister, là, parce qu'on a... On voit là, avec la transition qu'on veut avoir beaucoup d'électricité, en tout cas. La rivière MacPay bénéficie maintenant d'une reconnaissance à l'international. Elle vient d'être inscrite comme aire du patrimoine autochtone et communautaire, a pris le Devoir. Alors ça, c'est à suivre par rapport à ce dossier-là. Maintenant, ça, c'était dans le Devoir de mercredi. C'est un article toujours d'Alexandre Shields, page cahier B2 dans Le Devoir de mercredi. Il fait une revue de livre du livre de David Wallace Wells, La Terre inhabitable. C'est-à-dire, c'est son livre après ça. Il a publié, la Terre inhabitable, c'est le premier livre qui est écrit, qui a été connu. Il fait la recension d'un livre qui est écrit après. Alors, David Wallace Wells était très pessimiste. Là, il est un peu moins. Alors, 4 ans après la sortie de son livre choc, La Terre inhabitable, David Wallace Wells estime que plusieurs de ses constats sont plus que jamais d'actualité. Malgré une prise de conscience de plus en plus forte de la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique, l'humanité a trop tardé à agir. Elle devra donc vivre dans un monde dégradé et désorienté, prévient le journaliste du New York Times, David Wallace Wells. Les progrès en matière de transition énergétique permettent cependant d'espérer que nous éviterons l'apocalypse qu'on prédisait il y a de cela à peine quelques années. Le système climatique a fait de nous ce que nous sommes à l'origine de tout ce que nous appelons culture et civilisation de l'humanité. Ce système climatique-là a succombé, écrivait-il en 2019 dans un livre choc intitulé « La Terre inhabitable, vive avec 4 degrés Celsius de plus ». La dévastation à laquelle nous assistons autour de nous en ce moment est un scénario bien plus optimiste que l'avenir du réchauffement et toutes les catastrophes qu'il générera, ajoutait celui qui est aujourd'hui chroniqueur au prestigieux quotidien du New Yorkais. 4 ans plus tard, à la lumière des multiples catastrophes qui marquent cette année 2023 en voie de devenir la plus chaude de l'humanité, David Wallace Wells estime que plusieurs constats inscrits dans l'ouvrage sont plus que jamais d'actualité. Puisque nous continuons d'envoyer du carbone dans l'atmosphère et donc que les températures augmentent, les événements climatiques extrêmes sont plus fréquents et plus intenses, souligne-t-il en entrevue avec Le Devoir. Sauf que ce qu'il dit, c'est que le scénario catastrophe de 4 degrés ou d'augmentation semble être évité. Alors, les climatologues disent que la cible de 1,5, c'est celle qu'on devrait essayer d'atteindre. Et ça, c'est moins certain. Alors, c'est ça, on est entre deux, mais c'est actuellement, on n'exclut pas encore la possibilité qu'on réussisse à atteindre cette cible-là de 1,5 qui ferait que ça ferait une très grosse différence. En tout cas, M. Wallace Wells, qui était très pessimiste, il est un peu moins maintenant. Dans le même ordre d'idée, là, il y a le nouveau numéro de Relations, la revue Relations, qui est en kiosque présentement. Il porte sur le thème de l'effondrement. Je vais revenir sur cette revue-là là, plus tard. Alors, il y a un article dans Le Devoir de mardi qui publie un des articles dans la revue Relations. Alors, la théorie par-delà l'effondrement, la théorie effondriste a fait son entrée dans les débats politiques en Europe. Encore peu conceptualisée au Québec, la théorie de l'effondrement qui s'appuie sur la multiplication des crises sociales et environnementales pour annoncer l'imminence d'un effondrement civilisationnel a fait son entrée dans les débats politiques et les milieux environnementalistes en Europe au début des années 2010. Popularisée en France et en Belgique par le best-seller « Comment tout peut s'effondrer », petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. On en avait parlé de ce livre-là quand ça avait sorti. Alors, cette notion et l'imaginaire de fin du monde qu'elle charrie se sont rapidement imposés dans l'espace public et médiatique, donnant lieu à des prises de position tranchées et souvent antagonistes. Alors, c'est ça, tout le numéro, là, je vous lis juste un petit bout de l'article dans Le Devoir. Tout le numéro est consacré à une réflexion sur l'effondrement. Je vais y revenir là, dans les émissions subséquentes. Puis, dernière lecture, c'est dans Le Devoir d'aujourd'hui, article de José Blanchet que j'aime bien, c'est sur la réflexion sur le patrimoine. Et ce qu'elle nous dit, puis c'était un fait, là, le patrimoine disparaît. À tous les jours, on voit dans les médias qu'on doit démolir une maison, on détruit les antiquités, on jette beaucoup de beaux objets, puis ça nous entraîne vers des paysages, des lieux qui ont moins en moins de profondeur, de racines. Alors, je vous recommande cet article-là de José Blanchet. C'est dans Le Devoir d'aujourd'hui. Je peux vous lire un petit extrait au début de l'article. Le petit pincement sournois de culpabilité qui vient avec la trahison m'a fait des bleus partout depuis un mois. D'abord, mon oncle est parti avec le banc de quêteux et la chaise berçante de Mam, celle qui avait fait la route sur le toit de la Beetle bleue de mon père, de Cap-des-Rosiers à Rosemont. Pas l'arrière-grand-mère, la berceuse. Le long banc ancêtre du divan-lit a accompagné les tours de mal de fesses de plusieurs générations. Je m'en suis séparé sans état d'âme avec des bleus partout. On ne casse pas maison sans qu'il en reste quelques ecchymoses. Alors, on dirait qu'elle a décidé de partir de sa résidence puis s'est débarrassée de toutes sortes de meubles, d'objets qui ont une valeur patrimoniale. Alors, c'est un article intéressant dans Le Devoir d'aujourd'hui. Finalement, je vais vous relire aussi un article de... Ça, c'est dans le droit de parole d'aujourd'hui. Le dernier droit de parole. Le droit de parole du numéro de septembre. C'est une revue de livres du livre de Luc Bureau, Le Québec défiguré. Et ça aussi, c'est intéressant, ce livre-là. C'est une géographie de la laideur. Luc Bureau, c'est un géographe qui est décédé là, dernièrement. C'est comme un peu son testament géographique. Alors, tout juste avant que son dernier livre, Le Québec défiguré, une géographie de la laideur, ne paraisse chez Moult Éditions en juin 2023, le géographe Luc Bureau est décédé. Ainsi, on peut penser qu'il s'agit là d'un testament qui porte les idées les plus importantes qu'il tenait à nous transmettre. Luc Bureau a fait carrière au département de géographie de l'Université Laval, inscrivant ses recherches dans le champ de la géographie culturelle. Au fil des ans, il a publié une dizaine d'essais sur l'espace géographique tel qu'il est perçu culturellement. En eux-mêmes, les titres de ses ouvrages sont évocateurs d'une démarche originale et même poétique. Alors, je vais vous revenir, on va prendre une petite pause musicale, je vais vous revenir avec Luc Bureau au retour de la pause musicale.
Je vis en compagnie de 4 milliards de femmes et d'hommes. J'espère que je n'ai oublié personne. À bord du vaisseau spatial Terre. J'habite de temps en temps aux deux rue des Brasseries. À 5991, Tourine-la-Grosse, longitude 4 degrés, 44 minutes, 54 secondes, latitude 50 degrés, 46 minutes, 45 secondes, en Brabant, Wallonie, Belgique. Les rayons du soleil mettent 8 minutes pour me parvenir. Vous savez tout sur moi maintenant.
Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur et le fruit lui-même. La feuille et la fleur n'en sent la couleur. Qu'en avez-vous fait, mon maître supérieur? savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez rêvant frapper à ma porte. Ami comme avant, vous viendrez rêvant et l'on vous dira personne, elle est morte. On vous le dira, mais qui vous plaindra?
Le mardi 12 juin 1979, un homme a traversé la Manche à bord d'un vélo volant, transformant du même coup l'espace en vaste voie cyclable, en vélodrome sans limite. Cette traversée, c'est l'homme qui reprend son sceptre, après avoir été longtemps l'esclave de la technique qu'il a lui-même inventée.
Alors, c'est une petite suite là, de Julius Bocan. C'est un album qui est peut-être difficile à trouver. Là, c'est Born Acoustique. Et c'est un genre de compilation 1967-1988. Et c'était le vélo volant. Vélo volant. Ensuite, avant ça, vous aviez mon cœur et ensuite de ça, ma position exacte. Alors, c'est ça, je vous ai lu un petit bout là, de la revue de livres de Luc Bureau. Son livre, c'est « Le Québec défiguré ». Alors, je vais poursuivre un peu sa revue de livres. Après ça, je vais vous lire un extrait de son livre. Alors, le travail de Luc Bureau présente une nouvelle manière d'aborder la géographie. Sa recherche s'inscrit dans un cadre culturel élargi qui fait appel au mythe, à l'imaginaire, à la sociologie ou à la philosophie. Ses impressions personnelles, les références à ses propres expériences font aussi partie de sa démarche et sont souvent exprimées comme telles dans ses textes. Dans « Le Québec défiguré, une géographie de la laideur », Luc Bureau tourne sa caméra vers les disgrâces dont sont affublés les paysages produits par les sociétés industrialisées. Les thèmes sont nombreux et variés. Espaces urbains, banlieues, campagnes, lacs et rivières, infrastructures industrielles, touristes de masse, affichage commercial. Dans cette réflexion sur les paysages défigurés, le message le plus important est celui qui relie l'enlaidissement de l'environnement à la dégradation du milieu écologique. L'origine des problèmes est que maintenant, on ne considère les travaux d'aménagement que sous leur aspect technique, alors qu'aux époques anciennes, ils relevaient des beaux-arts. Luc Bureau rappelle que dans notre siècle mathématique, la construction et l'expansion des villes sont devenues des questions purement techniques. On a perdu, avec les années, une nécessaire coordination entre la nature des aménagements construits et leur contexte culturel, géographique, sociologique. Malgré tout, les textes de Luc Bureau ne sont pas si sombres car ils s'inscrivent dans une réflexion générale sur l'évolution de la société, sur les forces qui poussent celle-ci à produire la laideur. Le cadre de la réflexion inclut les grands textes de l'histoire de la pensée en remontant jusqu'aux mythologies de l'Antiquité. Enfin, comme on a toujours su le faire, Luc Bureau, l'humour et l'ironie émaillent un discours vif et loin d'être ennuyeux. Alors, c'est une réflexion qui mérite d'être faite. Hier, je prenais une marche parce que j'avais affaire là, mais je prenais une marche dans un parc industriel, puis c'est vrai que c'est bouleversant de voir comment certains lieux peuvent être comme laids, et c'est ça, c'est sans âme. Alors, je vous lis un petit bout de Luc Bureau là-dessus. Il dit « Qu'y a-t-il de commun entre ces différents parcs industriels. Tout d'abord, leur localisation étonne. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la plupart d'entre eux, les plus robustes dans bien des cas, se sont enracinés, sinon en plein cœur de la ville, tout au moins dans ses appendices immédiats, tels les parcs industriels Saint-Malo, Duberger, Jean Talon, les grandes artères que sont les boulevards Charré et Hamel, les autoroutes Henri IV et Robert Bourassa, forment un quadrilatère d'accueil quelque peu difforme qui s'adjuge 5 ou 6 de ces parcs. Les autres supportent un peu plus l'éloignement et la dispersion, mais demeurent tout de même dans les limites urbaines relativement rapprochées du centre. La ville, en tant que telle, se prolonge bien au-delà de ces parcs industriels. On aurait pu anticiper le contraire, que les parcs industriels trouvent refuge aux limites extrêmes de la ville. Devant de tels écueils ou barrières que constituent ces sites industriels campés au centre ou près de la ville, toute idée d'aménagement le moindrement rationnel de l'espace devient illusoire par l'effet de leur localisation. Ce sont des parcs qui dictent le dessin et le destin de la ville. Il va de soi que tous les parcs industriels qui peuvent se dilater sur 1 à 3 km² chacun ne tenaient ni les immeubles résidentiels ni aucune autre forme d'habitation. On y travaille, mais jamais on y habite. On pourrait mettre au défi n'importe quel échantillon de notre espèce d'y faire sa promenade quotidienne sans sombrer dans la démence. On se croirait dans un cimetière galactique plein d'énormes cubes identiques dont les portes s'ouvrent le matin et se ferment le soir et les week-ends. Mis à part le parc industriel Saint-Malo qui se flatte de quelques bâtiments aux formes variées et revêtements diversifiés de briques, de bois et de verre, les bâtiments des autres parcs souffrent pour la plupart d'une uniformité carcérale, d'une tristesse à causer une déprime chez les plus jovialistes. Prenez autant de minces blocs de bois rectangulaires que vous le souhaitez. Les pièces d'un jeu de domino peuvent faire l'affaire. Placez-les à faible distance l'un de l'autre le long de routes centre-trois que vous inventez. N'allez surtout pas dessiner des arbres ou des fleurs pour garnir les plates-bandes. Le tout vous donnera une image fidèle du paysage architectural des parcs industriels, fait de grands bâtiments plats d'un seul étage, enveloppés de tôles ondulées de couleur beige ou gris. Mais jamais un architecte subtil et original n'a franchi les barrières des parcs industriels. Sans que je n'y puisse rien, l'image fortement débilitante de camps de concentration sans clôture et sans chien, dédiés exclusivement à l'exploitation des forces de travail et à l'entassement d'objets hétéroclites, me colle à l'esprit. Alors, c'est assez intense. Voilà, en tout cas, c'est, pour ceux qui s'intéressent, c'est le livre de Luc Bureau, une géographie de la laideur. Le titre, c'est « Le Québec défiguré ». Alors, on prend une autre petite pause musicale, puis au retour, là, je vais vous revenir avec des lectures plus philosophiques, moins intense.
Le temps de cette chanson a comme prétention de pouvoir introduire des mots qu'il faudrait dire pour apaiser les cœurs qui cultivent la rancœur, pour apaiser les cœurs qui cultivent la rancœur. Cette chanson qui s'écoule sans bâillon préfère la balade à l'hymne d'une parade pour que jamais se meure l'arrogance du vainqueur. vainqueur, pour que jamais se meure l'arrogance du vainqueur. Cette chanson se veut une allusion à la paix que j'imagine pour qu'enfin se peaufinent les formes et les couleurs d'un prisme ambassadeur. Les formes et les couleurs d'un prisme ambassadeur. Les formes et les couleurs d'un prisme ambassadeur. Les formes et les couleurs d'un prisme ambassadeur.
C'était Jean-Marc Aurel, le temps de cette chanson de son album Une petite pause. Alors, c'est ça, j'ai... pour ceux qui s'intéressent, il y a un numéro hors série Philosophie Magazine qui est en kiosque présentement. Et la thématique, c'est l'art de ne rien faire. C'est toute une réflexion sur ce, le temps, comment finalement, un peu en lien avec ce que je vous ai lu, l'extrait de Taureau au début, là, comment reprendre sa vie en main, comment ne pas se faire voler sa vie par les exigences qu'on a aujourd'hui du temps moderne où on est toujours très occupé. C'est un numéro, finalement, c'est sur la simplicité volontaire, ce numéro-là. Alors, je vous le recommande. C'est Philosophie Magazine, hors série, l'art de ne rien faire. Alors, je vous lis quelques extraits. Vous avez au début un premier article avec Hartmut Rosa. Ça, c'est un sociologue, on en a beaucoup parlé à l'émission, qui a écrit, entre autres, là, sur l'accélération. Comment est-ce qu'on vit dans un monde qui accélère, puis comment on réagit à l'accélération. Et il y avait un autre numéro aussi de Philosophie Magazine qui avait porté sur lui, c'était la résonance, comment on... c'est un concept intéressant, comment on résonne, comment on, finalement, lorsqu'on est en contact avec le monde, on est en résonance, comment être en résonance. C'est assez intéressant comme propos là, philosophique. Alors, c'est le premier article, un entretien avec Hartmut Rosa. Alors, on dit, avez-vous le temps, on lui demande, avez-vous le temps de ne rien faire? C'est une question épineuse. Globalement, je ne suis pas très doué pour ne rien faire. Mon agenda est presque toujours rempli. Les plannings sont devenus nos patrons, nos gourous. Sans eux, nous sommes souvent perdus. Nous ne savons pas quoi faire de nous-mêmes face à une case vide. Mais il y a des jours où je ne prévois rien, des jours libres en quelque sorte. J'aime avoir des moments où je ne dois pas travailler, où il n'y a rien sur ma to-do list. Cela ne veut pas dire que je ne fais rien ces jours-là. J'en profite souvent pour sortir, marcher, flâner dans les rues sans but précis, ou bien je prends un livre, j'écoute de la musique, je regarde éventuellement un film. Alors, ce qui est intéressant, je vais vous en reparler de ça, parce qu'il y a un autre article qui voit un peu les choses de la même façon, là, d'André Comte-Ponville, c'est que tu as un équilibre à trouver entre... quand on parle de rien faire, c'est pas rien faire, c'est d'être présent, d'être une espèce d'action présente. C'est un équilibre à trouver. Et c'est ce qu'il nous dit M. Rosa. Alors, il dit... Et puis, c'est un peu ça aussi que je pense qu'on devrait rechercher dans la simplicité volontaire. C'est pas un extrême, c'est toujours une voie du milieu, ce que les philosophes ont toujours dit. Alors, c'est pas une recette, c'est quelque chose qu'on explore, qu'on essaie d'atteindre, mais qui est jamais parfaitement atteint. Alors, il dit, un peu plus loin, il dit, au fond, le problème n'est pas que nous n'avons pas le temps de ne rien faire, mais plutôt que nous n'avons pas l'énergie à faire des choses épanouissantes, même lorsque nous avons le temps. Alors, la vie moderne, rythmée par l'idée de performance, est devenue si épuisante que le soir, on n'a plus guère envie de faire quoi que ce soit par soi et pour soi. Compte tenu de la pression constante, même les activités que nous devrions apprécier, aller à un anniversaire, par exemple, deviennent des ajouts contraignants à notre to-do list. La seule façon de se libérer des activités aliénantes et chronophages de la journée semble être de ne rien faire, plus que s'engager dans une activité significative, épanouissante et créative. Il faut du temps et de l'énergie pour créer, mais comme nous nous sentons épuisés, nous préférons consommer passivement, à grande vitesse, une grande quantité de divertissement prêt à l'emploi pendant notre temps libre. Il existe en fait une très forte polarisation. La plupart du temps, nous courons et, à quelques rares occasions, nous nous accordons des oasis de lenteur. La plupart du temps, nous allons au fast-food ou utilisons les micro-ondes pour manger parce que nous n'avons pas le temps de cuisiner. Mais une fois par mois, nous nous accordons le plaisir de la slow food. Nous prenons le temps d'aller dans un bon restaurant, de cuisiner un bon repas. Je comprends cette polarisation, mais elle est réactive. Nous aspirons à ces moments isolés par contraste, alors que nous avons plutôt besoin d'une décélération globale. Nous avons besoin d'avoir le temps de manger et de boire. Du reste, les quelques moments de lenteur que nous nous accordons ne sont pas vraiment lents en général. Pensez au tourisme. Les vacances sont censées être un moment à part, complètement différent du rythme de la vie quotidienne. Nous ne voulons pas trop planifier ni nous mettre trop de pression. Nous choisissons donc souvent des destinations où les options sont multiples. C'est le piège. Une fois arrivés, nous essayons de faire le plus de choses possibles pour profiter au maximum de ce temps spécial. Étant sous pression en permanence, dans les moments où nous ne courons pas, nous attendons une récompense à la hauteur aussi intense que l'intensité du reste de notre vie accélérée. Alors, là, on lui pose une autre question. Nous devrions apprendre une forme de passivité dans toute notre culture occidentale, la manière d'être valorisée est l'activité. Ce mode d'être au monde, toujours actif et volontaire, est un mode d'agression. Nous nous sentons en partie aliénés à cette façon d'être que nous avons incorporée. Il n'est donc pas surprenant que nous aspirions à une manière non agressive d'être au monde, sauf que nous ignorons ce que cela signifierait. Nous ne savons pas comment en faire l'expérience parce que l'activité est notre source de signification. Nous imaginons une sorte de passivité totale. C'est une alternative binaire biaisée, enracinée dans notre langage. Nous n'avons que deux modes grammaticaux, l'actif et le passif. En réalité, je crois que la bonne vie consiste en des états où l'on est exactement entre les deux, dans une médio-passivité, une troisième voie, une forme d'être au monde où je suis à la fois actif et passif, et peut-être même très actif et très passif. Alors, vous voyez, c'est que c'est intéressant, c'est une voie du milieu, une voie intermédiaire. Alors, je vais faire une autre petite pause musicale, puis on poursuit avec le Philosophie Magazine.
Tan lontan dal suo paese, la pia una sposa giù, l'indoman la chita lì, alla fa il soldato setani, dopo setani ne riva lì, ad ai piedi in talla porta della Fiorenza venì dormì. Sua mamma dalla finestra della Fiorenza e papì. La Fiorenza le sta rubeia dal bel moro sarà sì. Campe nella mia spadina fu nel pugnal d'Arzè. In vaga gire lo mondo della Fiorenza la troverè.
Bel galantare andare a guerra per se tanna turna pi, che la povera Fiorenza le restai senza marì.
La trovai tra lavandere, callavamo so fardel, in un povo i lavandere, ma se c'ama sto castel, sto castel alle del bel moro, nel bel moro sarà sì, e setani che Fiorenza, e setani caiedri,
per galantare andare a guerra per setanna turna pi, e la povera Fiorenza restai senza marì.
Il bel moro alla finestra da lontan la vis venì, che i densa bella Fiorenza hai un on del vostro paese. Feie festa prunte la tavola, fei del pane del buon vin, di adisne bella Fiorenza, di adisne cuma per me. Quan le stai mita la tavola, e tumba l'anilin dal dì, culanelì al vetro bave, ale culca spusami.
Bel galantale andare a guerra per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Bel galantale andare a guerra per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì. Bel galantale andare a guerra per setanna turna pi, e la povera Fiorenza le restai senza marì.
Alors, c'était l'accordéoniste Andrea Capezzuoli. Capezzuoli, ça s'écrit C-A-P-E-Z-Z-U-O-L-I. Et c'est un Italien. Alors, le titre de son album, c'est Intreci, I-N-T-R-E-C-C-I. C'est un accordéoniste que j'ai vu au Festival d'accordéon à Montmagny, que j'ai bien aimé. L'accordéon européen, ben en fait, j'ai remarqué qu'il y a comme trois styles d'accordéon. Il y a le style qu'on voit un peu beaucoup dans les accordéonistes québécois, le style un peu de fête, les gigues, puis on se servait des violonus. C'est parce que on fêtait, nos ancêtres fêtaient beaucoup. Ensuite, il y a un peu l'accordéon plus classique qu'on voit dans les cafés de Paris, là, une sorte d'accordéon de chansonnier, on pourrait dire. Puis, il y a un troisième type qui est accordéon militant. Ça, c'est plus les Européens qui avaient ça, les marches, les travailleurs, puis il y avait un accordéoniste qui marchait avec eux. Et c'est un peu dans ce style-là, Capizzioli, que j'aime beaucoup ça. Il joue dans tous les genres parce qu'il il a fait un album québécois aussi qui est de fête, mais cette pièce-là ressemble plus à l'accordéon, je dirais, de revendication. Je vais vous en faire jouer d'autres dans les prochaines émissions, dans les semaines qui viennent. Alors, pour revenir au hors-série Philosophie Magazine, l'art de ne rien faire, c'est divisé en différentes leçons. Alors, la leçon numéro un, c'est Carpe Diem, profiter de l'instant avec Épicure et Montaigne. Alors, on dit Carpe Diem, soit, mais comment? Comment cueillir le jour à la manière d'Horace et d'Épicure? D'abord en évitant les contresens. Le célèbre vers n'est pas du tout un conseil de jouisseur, commente Pierre Hadot, mais une prise de conscience de la vanité des désirs superflus et sans limite. Alors, Pierre Hadot aussi, on va y revenir, là, c'est un de nos simplicitaires préférés, dans le panthéon des grands simplicitaires, Pierre Hadot. Alors, il dit, ben c'est ça, mais une prise de conscience de la vanité des désirs superflus et sans limite. Moins sexy, mais plus épicurien. Et ça n'empêche pas de vivre. Demandez à Montaigne. Alors, le premier article dans la leçon numéro un, qui parle de Carpe Diem, de profiter de l'instant, c'est un entretien avec André Comte-Ponceville, qui est un autre grand philosophe. Alors, on dit, quel sens Horace donna-t-il à son vers Carpe Diem? Profiter de l'instant sans souci des connaissances ou ne rien faire, au risque de confondre veulerie et repos, point d'interrogation. Est-il question d'occulter la condition humaine ou d'habiter notre existence le plus heureusement possible? Pour André Comte-Ponceville, le mieux est surtout de cueillir l'éternité. Alors, on dit, on lui pose une question, c'est un entretien, alors comme l'article précédent avec Rosa. Carpe Diem, si la formule d'Horace renvoie aujourd'hui à une forme d'hédonisme, à l'idée qu'il faut profiter de la vie, que signifiait-elle à l'époque d'Horace? Elle avait la même signification que celle d'aujourd'hui, que chacun comprend, cueillir le jour. Autrement dit, savoir profiter du moment présent sans trop se préoccuper de l'avenir. Hédonisme, oui, mais à courte vue. Il y a là comme une sagesse minimale, aussi pertinente qu'insuffisante. Que le plaisir vaille mieux que la souffrance, cela va de soi. Et qu'il vaille mieux vivre au présent que de s'enfermer dans la rumination du passé ou l'attente de l'avenir. J'en suis évidemment d'accord. Mais cela suffit-il? L'étudiant qui prépare son examen, s'il devait se contenter de cueillir le jour, aurait-il encore le courage de travailler? Et le prof qui prépare ses cours ou corrige ses copies? Et le paysan qui s'en retourne à sa terre? Et le maçon qui monte son mur? Et l'ouvrier à la chaîne? Et l'écrivain ou le philosophe qui noircit son papier? Car enfin, on ne travaille guère, sauf exception, que pour l'avenir et le militant qui se bat pour la justice, la paix ou la liberté. Et l'homme politique qui fait campagne, s'il ne s'agissait que de cueillir le jour, c'est-à-dire d'aller au plaisir par le plus court chemin, il n'y aurait ni études, ni travail, ni politique. C'est en quoi le carpe diem est lié au loisir, au temps libre, à ce que les Latins appelaient en effet l'osium, qu'ils opposaient aussi bien au travail manuel qu'à l'action politique. Autant dire que cela ne saurait valoir pour tout le reste de l'existence. Que le plaisir vaille mieux que la souffrance, cela ne prouve pas que le repos soit toujours préférable à l'effort, ni l'action, ni l'inaction à l'action, ni la paresse au courage. Ne confondons pas l'hédonisme à l'aveuglerie. Autrement dit, encore une fois, Comte-Sponville nous parle d'un équilibre entre les deux qui n'est pas facile à saisir, même pour lui. Là, ça ressemble à ce que Rosa disait tantôt. Alors, il poursuit. Horace est-il un épicurien et qu'aurait pu dire Épicure de cette formule au demeurant très belle? Oui, Horace est épicurien à sa façon, approximative et douce amère, comme des milliers de Romains de son temps. Pas un épicurien dogmatique ou de stricte obédience comme Lucrèce, mais plutôt comme le sera Montaigne, grand lecteur d'Horace d'ailleurs. Une espèce de sympathisant qui aime Épicure sans toujours se sentir tenu de penser la même chose que lui. Alors Épicure aussi, c'est notre philosophe par excellence, la simplicité volontaire. Alors, comme Montaigne était un épicurien, ou Thoreau était un épicurien, mais aussi, c'était des gens d'action. Alors, il y a un équilibre à trouver là, entre la philosophie d'Épicure qui est de vivre dans le présent et d'être au monde. Il dit un peu plus loin, « Épicure eût été d'accord sans en être dupe. Pourquoi? Parce que beaucoup de nos plaisirs sont comme traversés d'angoisse ou d'insatisfaction. L'insatisfaction du cupide qui en veut toujours plus, l'angoisse de l'avare qui a peur de perdre, celle des amoureux qui ne voudraient faire qu'un et ne le peuvent. » Lucrèce est autrement plus profond qu'Horace, quand, à propos de la passion amoureuse et de la prétendue fusion du coït, il évoque « Je ne sais quelle amertume qui, jusque dans les fleurs, prend la main à la gorge. S'il ne s'agissait que de jouir, la vie serait facile, mais on veut aussi aimer, être aimé, posséder, garder, et tout se complique. Surtout, Épicure aurait rappelé à Horace que les plaisirs les plus hauts sont les plaisirs spirituels, la philosophie, l'amitié, qu'Épicure appelait les biens immortels. C'est qu'ils n'ont affaire qu'aux vrais, qui ne meurent pas. Ce que j'ai résumé en une formule qu'on ne trouve ni chez Horace, ni chez Épicure, mais qui me paraît plus proche de celui-ci que de celui-là, carpe aeternitatem, cueillir l'éternité. Disons que c'est une lecture spinoziste d'Épicure, ou une lecture épicurienne de Spinoza, ou ma façon d'articuler les deux que j'en fais. Alors, un autre philosophe dont on a beaucoup parlé en toute simplicité, Spinoza. Alors, et ce que Comte-Sponville nous dit, et il voit ça comme la bonne vie, un équilibre entre l'action et profiter de l'instant. Un épicurisme spinozien, Spinozia, qui lui disait que sa vie était guidée par la joie. Alors, on va devoir revenir là-dessus. C'est des notions qui sont toujours à approfondir. On n'en finira jamais. Alors, bonne semaine.
Urbaine. Québec Réveil, la matinale de CKIA FM, est à la recherche de son nouvel animateur ou de sa nouvelle animatrice. Vous avez de l'expérience en journalisme et en animation radio? N'hésitez plus et consultez notre offre d'emploi au ckiafm.org pour tous les détails. Pour toute question ou pour soumettre votre candidature, communiquez avec le direction@ckiafm.org.
La saison du VR, des décapotables et de la moto au Québec, ça passe en un claquement de doigts. Profitez de l'été jusqu'au dernier moment en remisant votre véhicule saisonnier en ligne avec SACLIC. Vous pouvez même planifier